Des mots pour le dire, une émission présentée par Edonès Banti avec Michel Théron.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le réseau FM+, si vous nous rejoignez pour notre rendez-vous hebdomadaire et avec le guide toujours que nous suivons depuis des semaines, Michel Théron. Bonjour Michel.
Bonjour Edouane, bonjour à tous.
Des mots pour le dire, Méandre de l'amour, Eros et Agapé, livre paru chez Dervy par Michel Théron, et nous suivons ces méandres qui nous amènent petit à petit, de semaine en semaine, à découvrir les différentes situations, je t'aime, tu m'aimes, il m'aime, vous l'aimez, bref, tout le monde s'aime. Ah, c'est beau l'amour, je dirais, hein, Michel.
Oui, bien sûr.
Mais, comme disait Milan Kundera, si vous me permettez, il dit « Un amour excessif est un amour coupable ». Il avait écrit ça dans « La valse des adieux » ou bien encore de Eugène Achard, « Amour, amour, ton véritable nom est jalousie ». Voilà, c'est ces deux citations pour démarrer donc notre émission d'aujourd'hui qui nous permet d'aborder un nouvel paragraphe intitulé « Les deux moitiés du chemin ». Alors les deux moitiés du chemin, je suis curieux de savoir quelles sont ces deux moitiés du chemin. Est-ce que c'est le verre à moitié plein ou à moitié vide?
Alors, je vais parler de l'influence du sexe auquel on appartient dans l'expérience de l'amour, qui comporte le langage, les comportements, les attentes. Dans l'amour, on est deux. Hein. Bon, qu'en est-il de l'autre? Ce qu'on appelle le problème de l'altérité, hein, ou de l'intersubjectivité, hein, qui souvent pose des cas de conflit, une aporétique, comme on dit en philosophie. Hein. Donc, le plus facile serait de se cantonner à l'amour hétérosexuel, puisque l'autre n'est pas du même sexe que nous. Et c'est l'amour hétérosexuel, c'est le seul où l'affrontement direct de l'altérité semble poser un problème. Cependant, l'homosexualité contient aussi des problèmes et sources de conflits. Elle n'est pas exempte, justement, de difficultés. La jalousie, par exemple, y est souvent exacerbée. Mais enfin, l'autre dans l'amour homosexuel étant de la même nature que soi, les intérêts de l'un et de l'autre semblent ne pas différer beaucoup. Je prends intérêt non pas bien sûr au sens matériel, hein, économique si vous voulez, mais au sens psychophysique. Et c'est cependant une illusion. Si on voulait préciser les choses, je dirais que pour l'homosexualité masculine, il faut bien distinguer l'attrait que l'on éprouve pour des jeunes garçons, ou l'attrait éprouvé par deux jeunes garçons l'un pour l'autre, hein, comme c'est le cas dans les amitiés particulières de Roger Peyrefitte. Hein. Il faut distinguer aussi l'amour qui est éprouvé par un adulte pour un adolescent, que l'on appelle traditionnellement pédérastie, hein, Eros, l'amour, et Paidos, l'enfant. Hein. Cet amour de type pédérastique était très familier aux anciens Grecs et Romains. Et enfin, distinguer, il faut l'amour qui unit un adulte et un autre adulte, qui est du même âge, si vous voulez. Donc ça fait des cas de figure bien distincts. Alors, le second cas, l'amour pour un adulte, d'un adulte pour un adolescent, relève de la fascination pour l'androgynie de l'enfance, qui effectivement peut être extrêmement troublante, comme il se voit dans La mort à Venise, qui est un roman de Thomas Mann, et qui a été porté au cinéma par le Visconti en 1971. Ou encore, je pense à la pièce de Monterland, dont le titre est « La ville dont le prince est un enfant ». Ce titre en est tiré de la Bible, « Malheur à toi, pays dont le roi est un enfant ». C'est le livre de l'Ecclésiaste ou du Cohélète, chapitre 10, verset 16. Le tragique, c'est que cette androgynie angélique est bien sûr menacée une fois que survient la mue de la voix avec la puberté, si vous voulez. Hein. Il est sûr que, l'évangile de Matthieu, par exemple, là je parle sous votre contrôle, Redouane fait l'éloge justement de ce qui se passe à la résurrection. Il n'y a ni femme ni mari, dit Matthieu, car nous sommes tous comme des anges dans le ciel. Donc nous ne sommes pas sexués. Hein. À la résurrection. Alors, pour le cas de l'amour entre deux adultes masculins, je ne parlerai pas, par prétérition si vous voulez, du cas des habitants de Sodome, dont la Bible nous dit qu'ils manquaient d'hospitalité, c'est-à-dire d'ouverture vers l'autre. Entendez ici l'acceptation de l'autre sexe. Apparemment, les rôles masculins et féminins peuvent encore se jouer en alternance dans l'amour homosexuel. C'est évident, hein. Voyez par exemple le bateau ivre de Rimbaud, où le bateau est à la fois troule et flot, c'est le pôle masculin, hein, et pénétré par les flots, c'est le pôle féminin. Voici ce qu'on lit dans le bateau ivre. Libre, fumant, monté de brume violette, moi qui trouais le ciel rougeoyant comme un mur. Là, le bateau incarne le pôle masculin. Et puis, plus douce qu'aux enfants, la chair des pommes sûres, c'est-à-dire des pommes vertes, hein. L'eau verte pénétra ma coque de sapin, et des taches de vin bleu et des vomissures me lava, dispersant gouvernail et grappin. Là, le poète se situe dans le pôle féminin, hein. Le bateau est pénétré par les flots. Alors, prenons le cas maintenant de l'homosexualité féminine. Elle me semble évidemment réactionnelle à la brutalité et au machisme qui sont le propre du sexe masculin, hein, et cela me semble parfaitement compréhensible. Par exemple, les précieuses du XVIIe siècle avaient voulu civiliser les hommes, leur apprendre des égards et des attentions dans la pratique de l'amour. Alors ce n'est pas parce que Molière s'est moqué de ses précieuses, dans ses précieuses ridicules par exemple, que la tentative des précieuses, même si elle a échoué, ne demeure pas héroïque, à mon sens, vous voyez, hein. C'est vraiment un contresens qu'on fait sur les précieuses si on les voit d'après le prisme de Molière, hein. Vous voyez aussi les femmes savantes, hein. Bon, par exemple, quand Molière fait dire à un de ses personnages, je conçois qu'une femme ait des clartés de tout, mais je ne lui veux point la passion choquante de se rendre savante afin d'être savante. Vous voyez, et la capacité de son esprit se hausse, de la femme, à connaître un pourpoint d'avec un haut de chausse. Vous voyez, bon, Molière, par la bouche de son personnage, laisse la femme à l'appartement des femmes. Ce que chez les Grecs on appelait le gynécée, vous voyez, hein, voilà. Bon, mais là c'est une caricature, hein. Je crois que les précieuses, il faut les défendre, parce que elles ont vu que l'homme était brutal, hein, et qu'il ne manquait justement de ses attentions et des égards dont je parlais à l'instant, vous voyez. Et finalement, nous pouvons comprendre alors que, par réaction contre cette brutalité masculine, les femmes puissent se tourner vers l'amour qu'on dit saphique, hein, de Sappho, un peu poétesse de Lesbos, hein. Alors, un poète comme Baudelaire a dit là-dessus de très belles choses dans le cycle des Fleurs du Mal consacré à Lesbos. Voyez par exemple ce qu'il dit dans Femme damnée, hein. Le contact de l'homme est montré comme une agression sauvage. Voici un vers de Femme damnée. Tu me rapporteras tes seins stigmatisés, etc. Vous voyez, hein. Donc, notez, Redouane, que ces pièces font partie des pièces condamnées, des Fleurs du Mal. Elles ont été condamnées au tribunal, hein. On a décidé que les Fleurs du Mal devaient ne pas les comporter, il fallait expurger le recueil. Et cependant, c'est parmi les plus belles pièces artistiquement, esthétiquement, des Fleurs du Mal, hein. Il faut bien le dire, hein. Alors, je crois que finalement, l'amour lesbien, hein, ne peut pas se comprendre si on ne regarde pas comment l'homme se comporte, lui, hein. C'est un amour réactionnel. Regardez par exemple la nuit de noces décrite dans le roman de Maupassant, Une vie. Eh bien, cette nuit de noces est atroce, car c'est d'un viol légal qu'il s'agit, hein. Et une évocation analogue se trouve dans Thérèse d'Esqueyrou de Mauriac, vous voyez. Imaginons une femme comme une jeune fille qui, au XIXe siècle, arrivait vierge au mariage. Eh bien, elle connaît une nuit de noces qui est un viol, hein, et c'est effrayant, hein, justement, mais c'est légal, si vous voulez. Alors, le plus insoutenable de la chose est montré dans le film d'Amos Gitai qui s'appelle Kadosh, qui est sorti en 1999. Et là, la nuit de noces est vraiment montrée comme une agression sauvage. Vous voyez, vous l'avez vu ce film Kadosh.
Oui, oui.
Il est impressionnant, n'est-ce pas?
Oui,
non. Et oui. Et oui, parce que le film commence par une déclaration machiste. Le croyant, donc qui est un juif intégriste, s'enveloppe dans ses fameuses téphilim, ses bandelettes, là, où il va être ligoté. Et la première prière qu'il fait le matin en se levant, c'est « Je te rends grâce au Seigneur de ne point m'avoir fait femme, de ne pas m'avoir créé pour une femme. » Donc Kadosh est un film terrifiant, puisque les hommes vivent dans la crainte de Dieu, et les femmes vivent dans la crainte des hommes. C'est une cascade de peur, si vous voulez. Et là, je crois que ça fait beaucoup réfléchir. Ce qui compte dans ce milieu-là, c'est uniquement la reproduction de l'espèce, la perpétuation de l'espèce. Donc que la femme ait du plaisir ou pas, peu importe dans ce cas-là, vous voyez. Et d'ailleurs, quand une femme ne peut pas donner un enfant à son mari, on peut la répudier, je crois, au bout de 10 ans. C'est ce qui se passe dans le film de Gitai, vous voyez, c'est terrifiant, parce qu'en plus on ne se demande pas si la stérilité est la cause véritablement de la femme. Ça peut être une stérilité causée par l'homme, vous voyez. Mais comme il est interdit de faire des spermogrammes dans cette culture, d'analyser la semence, depuis l'épisode biblique donnant, il est interdit de répandre sa semence en vin sur le sol, vous voyez. Donc à ce moment-là, on condamne radicalement la femme. Je trouve ça affreux. Bon, alors bien sûr, ce film se passe dans le quartier de Mea Shearim, c'est-à-dire le quartier des juifs ultra-orthodoxes de Jérusalem. J'imagine qu'il n'en est pas de même dans toute la communauté juive.
On le souhaite.
On le souhaite, on le souhaite. Parce que quand on voit le père de cet homme qui est rabbin et qui dit « Non mais elle peut pas tenir d'enfant, répudie-la et prends-en une autre », remarquez, Redouane, je crois que c'est l'histoire de Sarah et d'Agar, un peu, puisque Sarah étant stérile, ne pouvant donner un enfant à Abraham, eh bien, Abraham prend comme maîtresse cette Agar.
Ah, il ne prend pas.
Non, c'est Sarah qui la pousse,
C'est Sarah qui lui donne.
Voilà, tout à fait, qui pousse.
Mais c'était une pratique. C'est vrai que, disons, ce qu'il faut situer aussi ce temps-là, c'est la descendance était extrêmement importante. Pourquoi ? Parce qu'il n'y avait pas de maison de retraite. Il n'y avait pas, je veux dire, c'est les enfants qui prenaient en charge aussi les vieux jours des vieux parents. Et tout le monde vivait dans la même maison. Donc, voilà, c'est tout ce concept clanique qui n'a plus raison d'être, et c'est vrai qu'aujourd'hui, lorsqu'on voit certains fonctionnements, on se dit il serait temps que certains changent de logiciel.
Absolument. Parce qu'il est évident que le plaisir féminin n'importe pas du tout pour la procréation. Ça, c'est absolument classique. Et même, alors, des coutures barbares, comme par exemple celle de l'excision telle qu'elle a lieu en Afrique, justement, montrent bien cyniquement la réalité. Si c'est uniquement la perpétuation d'espèces qui compte, le plaisir féminin n'y est pour rien.
Disons que le plaisir féminin est toujours suspect, parce que si une femme qui prend du plaisir dans une relation sexuelle, elle risque de tromper son mari. Par contre, le mari peut toujours se permettre. C'est-à-dire, on est vraiment dans un schéma très machiste, très patriarcal.
Absolument.
Et du coup, ce qui était analysé, c'est cette peur du plaisir féminin.
Oui, et oui, bien sûr, parce que je sais pas, quand je pense à ces choses-là, à cette barbarie, je sais pas, une espèce de révolte m'envahit et me dit, mais enfin, comment se fait-il que cela puisse exister comme cela, depuis, et encore par la pratique barbare que je viens d'évoquer, qui n'existe qu'en Afrique noire, je crois, et non pas bien sûr dans le Maghreb, je pense, voilà. Donc voilà, alors je reviens à l'amour homosexuel, je pense que le problème qui se pose, c'est d'une part la brutalité masculine et d'autre part le désir qu'a la femme d'associer l'acte sexuel à la douceur, à la tendresse, au sentiment, vous voyez, donc là les intérêts je dirais, psychophysiques des deux sexes ne sont pas identiques. C'est pour ça que j'appelle mon chapitre « Les deux moitiés du chemin ». Il faut que chacun fasse une moitié du chemin pour aller à la rencontre de l'autre. Alors, comme première virgule musicale de cette émission, j'ai choisi la chanson qui est initialement chantée par Édith Piaf, qui s'appelle « Mon légionnaire », mais qui est chantée donc par Gainsbourg. Alors, le sens change complètement.